Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bonjour à tous. Alors c'est l'heure de la sieste et je suis vraiment vraiment ravie de voir autant de monde pour parler d'Apocalypse. C'est, voilà, il y a quelque chose qui donne à méditer. Alors l'Apocalypse, c'est quoi? L'Apocalypse, c'est censé être, c'est une révélation, hein, on connaît le livre biblique, dernier livre, Révélation, de Jean de Patmos, qui parle de la fin du monde de manière cryptique, et qui est un texte qui a donné à réfléchir, qui a donné à se poser pas mal de questions, puisque la fin du monde renvoie à la fin de nous, à notre immortalité ou à notre mortalité. Je ne sais pas comment on voit les choses. Alors l'imaginaire a quelque chose de puissant, c'est d'imaginer autre chose. Donc nous sommes hantés par notre propre mort, mais l'imaginaire nous propose d'aller au-delà de notre propre mort et d'imaginer une vie après l'Apocalypse. Donc, j'ai ici quelques spécialistes que je vais vous présenter les uns après les autres. Donc, je vais avoir une question pour chacun et je vais croiser les doigts pour que la mayonnaise prenne, parce qu'on a quand même des auteurs d'horizons différents, avec des approches différentes, mais avec en commun ce thème de l'Apocalypse et de ce qui se passe après. Alors, je vais commencer par la femme, Hildur, dont je ne sais pas prononcer le nom de famille. Elle ne m'en voudra peut-être pas.
Knutsdottir.
Voilà.
Mais on peut dire aussi Knutsdottir.
Knutsdottir. Très bien. Donc, Hildur, qui est née en 1984, il va certainement manquer des informations, mais je compte sur elle pour nous en dire un petit peu plus, qui est une autrice islandaise qui écrit à la fois pour les enfants et pour les adultes et qui a vécu un peu partout, en Amérique du Sud, en Allemagne, au Portugal. Elle a étudié le chinois et a reçu pour ses livres plusieurs récompenses. On la connaît en France depuis peu. On la connaît pour ses romans Sanglant hiver et Dernier hiver. Sanglant hiver va apparaître par magie dans pas longtemps. Et donc, elle est ici parce que dans ses textes, il est question, vous l'avez deviné, de fin du monde, de fin d'un monde. On ne sait pas trop, on va lui demander. Et la première question que j'ai envie de lui poser là tout de suite, c'est pourquoi faire un parcours international et nous proposer une fin du monde qui m'a l'air très, très, très islandaise. Faire le tour du monde et nous proposer une fin du monde qui m'a l'air absolument islandaise.
Ok. Mais c'est pas une question.
Typiquement, bah si, mais pourquoi? Pourquoi?
Eitthvað svona, því svona sögur heimsendi eru þekktar mjög víða en það hafa ekki margar þannig verið skrifaðar á íslensku. Þannig að mér langaði að gera það.
En fait, tout simplement, il existe des tas d'histoires de la fin du monde ou de versions de la fin du monde qui ont été écrites un peu partout sur Terre, sauf réellement en Islande. Et j'avais envie d'en faire une.
Og hérna, þannig að ég held að mér hafi tekist að skrifa svona blóðugustu bók sem hefur skrifað á íslensku.
J'ai bien l'impression d'avoir écrit le livre le plus sanglant, voire sanguinolent, qui existe en islandais.
Og hérna, og þetta svolítið svona sem að gerast núna, það mikið að gerast í svona íslenskum fantasíum og við erum svolítið að skrifa hefðina á Íslandi núna, myndi ég segja.
En fait, tout simplement, en Islande, on n'a pas vraiment de tradition pour la littérature de fantasy ou pour la littérature de l'imaginaire, pour la fantasy. Et on est en train, nous, les Islandais actuels, enfin les, la jeune génération, de fabriquer la tradition.
Og við höfum kannski svolítið verið svona undir hælinum á skandinavískum sósialrealisma og en nú svona erum við að brjótast undan honum.
Disons qu'en Islande, on a souvent eu tendance à écrire un peu sous la botte du réalisme social à la scandinave. Et que maintenant, on est peut-être en train un peu de se libérer de ce canon qui est donc le réalisme social à la scandinave.
Merci. Donc, je vais me tourner vers ma gauche pour vous présenter celui qu'on ne présente plus, qui est né un peu plus tôt quand même que Hildur. Voilà. On ne parle pas des dates de naissance. Ah. Donc, Jean-Pierre Andrevaux, spécialiste à de nombreux titres de la fin du monde, mais pas que. Figure incontournable de l'imaginaire français, homme multicasquette, chanteur, dessinateur, écrivain. Et vous verrez que c'est aussi un orateur fort intéressant, essayiste également, et qui a abordé plusieurs fois la fin du monde dans ses textes. Textes qui ont connu plusieurs éditions la plupart du temps, donc il va nous en parler. Et qui a aussi, alors il y a le cinéma, j'ai oublié le cinéma aussi, donc en particulier cinéma, fin du monde, zombies, etc. Il y a des choses, on a un spécialiste sous la main. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que vous lisez ce qui se fait récemment sur ces thèmes-là ? Parce que je sais qu'il y a eu des essais à plusieurs reprises. Donc, est-ce que vous lisez ce qui se fait récemment ? Est-ce que vous avez observé, en tout cas dans votre longue carrière dans l'imaginaire, une évolution dans la narration de la fin du monde ?
Oui et non. Je pense que la fin du monde a été présente chez beaucoup d'auteurs de l'imaginaire, mais un imaginaire réaliste. Hein, des Rosniené, par exemple, qui a écrit La mort de la Terre au siècle dernier, ou plutôt au début au siècle dernier, effectivement. Et c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter, parce qu'on sait que le monde finira. On sait que nous finirons, hein, dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années. On sait que la Terre finira. La Terre a à peu près 4 milliards et demi d'années. Et on sait que dans un laps de temps à peu près équivalent, 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une nova, explosera et la Terre brûlera. Bon, alors ce n'est pas pour demain, bien entendu. Seulement, ce qui est pour demain, c'est ce qui nous pend au-dessus de la tête, c'est les changements climatiques. Il faut dire maintenant emballement climatique, parce que le climat s'emballe, il ne change pas tout doucement. Et donc, la fin du monde est très présente dans notre vie de tous les jours. Il faut en être conscient. Si on n'en est pas conscient, c'est qu'on est sourd ou aveugle ou qu'on fait exprès, quoi, vraiment. Et qu'on dit « Oh, mais tout s'arrangera ». Non, si on ne fait pas de gros efforts, ça ne s'arrangera pas. Alors moi, c'est vrai que j'ai rencontré ça étant un amoureux de la nature, j'ai rencontré ça très vite, hein, au début des années 70, le fait que la nature changeait, et changeait par la faute de l'homme, qui pollue les mers, qui pollue l'air, qui pollue tout. Et dès les années 70, j'ai lu pas mal de bouquins, de Dubos, par exemple, qui est un grand chercheur français, des Américains, etc., etc. Mais ça, c'était des petits pointillés, quand même. Et c'est vrai que depuis quelques années, depuis que la plupart des gens sont quand même au courant, admettent qu'il y a vraiment un changement climatique, qu'il n'y a plus beaucoup de climato-sceptiques, il y en a peut-être un ou deux dans cette salle, non, quand même pas. Voilà, il y a des tas de livres qui dévient de la simple évidence scientifique pour essayer de savoir ce qui va se passer au niveau de la société, de ce qu'on vit. On appelle ça maintenant la collapsologie, c'est-à-dire essayer de résister à la fin du monde comme on pourra. Les solutions ne sont pas du tout évidentes. Alors, il y a des tas de gens très, très bien qui ont écrit des tas de bouquins là-dessus, avec effectivement un retour à la terre, un retour aux sociétés agraires, etc. Le problème, c'est le passage. Comment on va y arriver et est-ce qu'on a le temps d'y arriver ? Et ça, malheureusement, on ne peut pas le dire. Et moi, j'en suis pas vraiment sûr, parce qu'on a réagi vraiment trop, 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 trop tard. Bon, je m'arrête là, je ne vais pas monopoliser la parole.
On va y revenir de toute façon. J'aimerais aussi vous présenter. Alors, on ne suit pas l'ordre parce que voilà, j'en ai décidé ainsi. Camille Le Boulanger, qui fait partie de la nouvelle génération d'auteurs d'imaginaire. Camille Le Boulanger, qui a écrit Enfin la nuit en 2011 chez La Talente. Bertram Le Baladin en 2017. Et puis, finalement, on rapproche les publications, puisque maintenant, 2018, de nouveau chez La Talente, Malboire, qui est ici. Alors, on parle de fables écologiques. Et j'ai cru voir comme schéma quelque chose d'une fin du monde qu'on a bien cherché. Est-ce que je me trompe dans cette lecture-là? Donc, une fin du monde qu'on a bien cherché. Et on est sur une post-apo, donc pourquoi on mériterait de survivre à une fin du monde que finalement on a bien cherché? Merci de répondre. Je compte sur ta créativité.
Alors je vais mettre de côté la question morale qui est. On va essayer de répondre à la première. Est-ce que c'est une fin du monde qu'on a bien cherché? Alors je ne peux parler que pour mon livre. Dans ce livre, en tout cas, et pour reprendre ce que tu disais, Jean-Pierre, effectivement, c'est quelque chose qui est une évidence. Et il me semble que, en tout cas, dans ce texte-là et dans la manière dont je l'ai conçu, c'est pas du tout genre une sonnette d'alarme ou une prophétie. Regardez, ça va mal finir, etc. Les choses qui sont mises en scène dans ce roman et qui sont mises en scène, voilà, encore une fois, dans pas mal de littérature de fin du monde, finalement, sont des choses qui existent déjà, qui sont déjà soit en germe, soit carrément en lieu. Il n'y a qu'à regarder les paysages qu'on fabrique, puisque voilà, on a des paysages qui sont fabriqués, qui sont créés industriellement pour voir cela. Alors après, effectivement, sur est-ce qu'on l'a bien cherché? Effectivement, on a toujours la question du personnage d'après qui va voir, qui va se rendre compte de ce qui s'est passé, qui va chercher à reconstituer le cours des événements pour le comprendre, etc. Alors, en tout cas, dans la conception de ce roman-là en particulier, la question n'était pas de qu'est-ce qui va se passer après, mais c'est qu'est-ce qu'il est en train de se passer maintenant et qu'est-ce que l'extrapolation, finalement, juste à appuyer un petit peu plus le curseur de faits extrêmement actuels, peut nous aider à mettre le doigt et peut-être éventuellement à changer ou à reconsidérer en tout cas certaines pratiques, certaines attitudes de maintenant, de tous les jours, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question du tout.
Ça avait l'air. Il me reste à vous présenter Stéphane Servant. Stéphane Servant, auteur jeunesse.
Bonjour.
Qui signe de nombreux albums et romans. Donc Stéphane a remporté cette année le prix Imaginal des collégiens, c'est ça?
Oui, enfin mon livre. pas moi.
Donc son livre est lui, avec Sirius. Sirius, qui est présenté par la presse comme un road trip post-apocalyptique, voilà, et qui semble hanté par chaos et sauvagerie comme contexte. Est-ce que c'est inévitable, obligatoire? Pourquoi? Dis-nous tout.
Ok. Effectivement, le roman s'ouvre sur deux personnages, une jeune fille et un petit garçon qui est son petit frère. Ils sont réfugiés au sein d'une forêt et on comprend très vite que l'apocalypse a déjà eu lieu, en fait. Que la guerre a décimé les hommes et qu'un virus est la cause de tout ça. Un virus qui a rendu tout le vivant stérile, que ce soit les animaux, les plantes, les champignons et les hommes. Donc ce sont peut-être les deux derniers êtres humains de la Terre. Et moi, j'ai imaginé que, pour parler plus directement de l'apocalypse, oui, elle est le résultat de l'action de l'homme, mais elle est surtout le résultat d'une folie aveugle de l'homme, c'est-à-dire que quand l'homme a été confronté à sa propre stérilité, il a sombré dans la folie. Plus d'enfants, plus d'avenir, alors à quoi bon ? Et l'homme s'est perdu, et l'homme s'est embrasé, et est sur le point de disparaître. Et finalement, je devance peut-être tes questions. Bon, moi, j'imagine très concrètement l'Apocalypse comme étant le manque d'amour. Je pense que c'est ce qui nous perd. C'est ce qui nous perd aujourd'hui, le manque d'empathie, pas seulement entre nous, hein, mais avec le vivant dans son entier. Et la façon qu'ont ces deux personnages de survivre à cet apocalypse, bah, c'est justement par l'amour. Et en essayant de faire exister encore cette petite flamme dans ces grandes ténèbres.
Merci, je suis toute émue parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on parle d'amour sur une table ronde sur l'apocalypse, mais c'est super. Et j'ai une question qui s'adresse à toi, mais qui s'adresse aussi aux autres auteurs. Faire du post-apo pour la jeunesse, est-ce que ce n'est pas méchant? Donc, que vous en fassiez ou pas, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas.
Premièrement, effectivement, Sirius a été primé par les collégiens. Moi, j'en ai été très étonné, parce que c'est un livre qui est assez dur. Pas tant dans la violence qui est décrite, mais plutôt dans une violence psychologique de ce que les personnages peuvent ressentir, cette solitude extrême. Mais je pense que nous, les adultes, on a à tort tendance à considérer comme les enfants comme étant hors du monde, aveugles, sourds à tout ce qui se passe. Et je crois que c'est une grande erreur de considérer l'enfance et la jeunesse comme ça. C'est leur confisquer les clés du monde. Et je trouve qu'il est très important aujourd'hui de mettre des mots sur ce qui nous arrive et qu'est-ce qu'on vit. Et alors évidemment avec bienveillance quand on s'adresse à la jeunesse en leur disant ne t'en fais pas, je suis là avec toi et on va y arriver ensemble. Mais il n'y a rien de pire, je trouve, que le silence dans notre monde.
Hildur a écrit également pour la jeunesse. Peut-être un commentaire là-dessus.
Já, sko, síðustu vikur hafa verið rosa mikið á svona skólaverkvöllum fyrir loftslagið í Reykjavík.
Oui, ces dernières semaines, il y a eu énormément de grèves de lycéens ou d'écoliers pour le climat à Reykjavík.
Og þetta hún hérna sænska Greta Thunberg sem að starta þessu og þetta líka hérna í Frakklandi og í mörgum öðrum löndum.
Ces grèves-là, vous les avez aussi en France, en Belgique. C'est un mouvement qui a été initié par cette jeune Suédoise, Greta Thunberg. Voilà.
Og ég búin að fara á eiginlega öll verkvöllin á Íslandi og þar eru krakkar að halda ræður.
Moi je suis allé à toutes ces manifestations, toutes ces grèves en Islande et j'ai écouté les discours que tiennent ces gamins ou ces jeunes.
Og þar eru bara mjög ungi krakkar sem hafa rosalega miklar áhyggjur af framtíðinni.
Et effectivement, j'ai entendu quelquefois des enfants très jeunes qui s'inquiètent énormément pour l'avenir, qui sont très très inquiets de l'avenir. Parce que il faut bien savoir que les enfants, ils lisent les journaux ou les informations et qu'ils comprennent beaucoup plus que ce que nous on imagine qu'ils peuvent comprendre.
Og þess vegna finnst mér mikilvægt að séu bækur fyrir börn og úlinga sem að fjallum alvarleg málefni, af því það svona staður til að taka stá við hlutina.
Et c'est pour ça que, à mon avis, comme Stéphane, je pense que c'est très important qu'il y ait des livres pour les jeunes qui traitent aussi de ces problèmes qui sont effectivement très inquiétants, pour ne pas les laisser dans le silence.
Og þannig að það sem að, einhvern veginn, mér langa að skoða í bókunum mínum er líka svona að eftir að eitthvað hræðilegt gerist, þá er, já. Þá samt, þú veist, vinnotta og ást og fjölskyldan.
Et moi ce que j'essaie de montrer dans mes livres, c'est que après des catastrophes, des choses absolument affreuses qui se passent, comme il y a des choses affreuses qui se passent dans mes livres, il reste quand même quelque chose, même si tout semble détruit, il reste encore l'amitié, l'amour, le lien entre les gens.
Því að yfirleitt náttúrulega eftir svona hrun eða heimsendi eða hvað sem við köllum það, þá heldur lífið einhvern veginn áfram.
Parce que même s'il y a un moment d'effondrement, un moment de fin du monde, d'une certaine manière, il y a quand même quelque part la vie qui continue.
Merci. Je vous propose d'écouter maintenant l'extrait qui a été choisi par Jean-Pierre Andrevon. Cadeau pour vous. Tu voulais commenter sur... Oui, excuse-moi. Pardon.
Tant que Jean-Pierre joue son extrait. Tu as trouvé ? D'accord. Non, si, moi, je voulais juste réagir à ce que tu disais, Jérôme, sur le fait que tu étais surpris de l'attrait des collégiens pour tes histoires dures et noires, pour fréquenter un petit peu des collégiens dans mon travail. Ils aiment ça, ils sont friands de trucs déprimants, de trucs durs. Voilà, ça leur plaît, quoi. Voilà. Donc, pas si étonnant que ça, je pense, dans leur lecteur, le lectorat. Mais ça répond à leur angoisse, hein, cette angoisse que Lior exprimait, etc. Je pense qu'effectivement, on cherche cette angoisse-là à trouver une réponse dans des histoires qui la mettent en scène.
Et si je peux me permettre d'ajouter une petite touche, trouver des mots quand on est... Enfin, je me souviens, là, quand j'avais cet âge et qu'on cherchait des mots pour dire des choses qu'on ne comprenait pas, ces transformations intérieures compliquées, c'était vachement précieux d'avoir des livres qui nous donnent les mots pour dire ce qui ne va pas. À toi, Jean-Pierre.
Alors, je vais vous lire. Ça marche, là, vous m'entendez ? Oui. Puis, tant pis si vous ne m'entendez pas. Je vais vous lire les lignes terminales d'une nouvelle que j'ai écrite il y a très longtemps, en 1975, donc ça ne date pas d'hier, qui s'appelle « Le monde enfin », puis que j'ai ensuite prolongé par d'autres nouvelles pour en faire une espèce de saga de la fin du monde. Et dans « Le monde enfin », j'ai trouvé l'idée qu'une épidémie ou une pandémie exterminait la totalité de l'humanité. J'ai appelé ça le piscra, c'était une espèce de déviation de l'encéphalite spongiforme bovine. Et donc les gens meurent peu à peu, le virus mute, évidemment, il n'y a aucune parade, et à la fin, il n'y a plus personne. En tout cas, dans la nouvelle initiale, parce que dans la prolongation que j'ai faite, il reste 3 couples qui vont peut-être refaire des enfants. On ne leur souhaite pas quand même. Donc voilà. Et donc dans ce livre, hein, Le monde enfin, ce qui m'a intéressé, c'est de voir la terre renaître, la terre reverdir, les villes s'écrouler, retourner à la végétation, les animaux massacrés à nouveau sortir des zoos, se multiplier, renaître. Et à la fin du livre, ben voilà la fin du livre. Sur une colline doucement saupoudrée d'un timide soleil voilé de l'ancienne province de Sichuan, un jeune panda, assis sur son derrière, broie méticuleusement de tendres pousses de bambou entre ses fortes mâchoires plantées de molaires aux crêtes coupantes comme des lames de rasoir. Autour de lui, les plans aux bruissements métalliques s'étendent jusqu'aux limites visibles du monde. Dans le sol, bien au-delà de ces limites, s'enfoncent les corps putrescibles d'1,5 milliard de Chinois. À quelques kilomètres vers l'ouest, un grand tigre guette avec patience le troupeau de buffles qui s'abreuvent dans un déversoir. Particulièrement, une vieille femelle qui traîne la patte et s'écarte insensiblement de sa harde. Le tigre a tout son temps. Il n'a aucun ennemi. Le corps mêlé d'un milliard d'Indiens dont le but proclamé, dépasser en 2050 la population de la Chine, n'a pas pu être atteint. Il repose en ordre dispersé sur le triangle sous-continental, attendant peut-être une prochaine réincarnation. Sur un autre continent, un éléphant aux défenses orgueilleuses brame devant une rivière à sec où se dessèchent les dépouilles de bronze de plusieurs dizaines de crocodiles. Il devra remonter encore plus loin vers le nord, fuyant le désert qui craquelle désormais la plus grande partie de l'Afrique centrale. Sur sa route, il écrasera quelques-uns des squelettes des 900 millions d'Africains qui ricanent face au ciel brûlant de midi. Loin vers l'ouest, loin vers le nord, sur un autre continent encore, un ours blanc renifle avec perplexité les déjections noires qui souillent encore les tranchées de prospection pétrolifère ouvertes entre le centre de Notarak dans le parc naturel de l'Arctique par un président des États-Unis désireux de satisfaire aux besoins énergétiques d'un pays responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. L'ours ne sait rien de tout cela. Il est né bien après l'extension libératrice. Il relève le museau, se frotte l'échine contre le montant rouillé d'une tour de forage. D'année en année, le froid s'intensifie. Fils d'un monde chaud, l'ours n'a pas l'habitude. Il s'ébroue, commence à trottiner en direction du sud. Une chauve-souris happe en plein vol un moucheron tardif. Au cœur des bois, un fauve, un lynx peut-être, rugit de contentement, la gueule pleine de sang. La grande nuit qui a avalé l'humanité n'est pas prête de se lever. Les bêtes, elles, possèdent le monde. Enfin.
Jean-Pierre Andrevon vient de nous offrir un panorama. On a les continents, on a les animaux, on a tout le monde. Et ça fait écho à un constat que je fais par rapport au texte des autres personnes présentes. On a changé d'échelle. On a eu longtemps des fins du monde mondiales, des fins du monde comme celle-ci, qui couvrent tous les continents et qui détaillent un peu ce qui se passe. Et là, dans vos textes, à vous trois, j'ai l'impression qu'on réduit l'échelle, qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus intime. On a deux personnages, trois personnages, à peine plus. On est sur des régions clairement déterminées. On reste en Islande, on est en Flandre. Enfin, voilà. Donc, dites-moi plus, pourquoi cette échelle ? Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Est-ce que c'était plus marquant ? Enfin, dites-moi, quoi. Qui veut commencer ? Camille ?
Sur la question de l'échelle, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'extrait que tu as lu, Jean-Pierre, qui est que ce qu'on appelle communément fin du monde, finalement, n'est pas du tout une fin du monde. Le monde va très bien, merci pour lui. Ce qui risque de disparaître, c'est nous en tant qu'espèces, les espèces que nous tuerons. Nous les avons tuées et tuerons d'ici là. Déjà, voilà. Sur la question de l'échelle, encore une fois, et du personnage. Pour ce qui est, encore une fois, de Malboire en particulier, le livre est indissociable d'un paysage particulier et d'un endroit particulier en France que les lecteurs du roman reconnaîtront sans peine, hein, qui est un territoire extrêmement plat, avec de nombreux arbres alignés, une région façonnée par la main de l'homme et extrêmement cultivée, etc. Et qui est une région qui est inondable et qui est prête à, voilà, qui est extrêmement vulnérable à cet emballement, à ce changement climatique. L'échelle du roman, encore une fois pour mon cas, est venu au préalable puisque le roman s'est imposé finalement comme l'écriture d'un mémoire et du coup ce sera forcément quelque chose d'intime puisque c'est un narrateur qui raconte des années après ce qui lui est arrivé et quelle a été sa vie et quelle a été sa découverte de ce monde qui est un monde de l'après mais qui est finalement à lui son monde du pendant. Et ce qui m'intéresse plus, je réfléchis à cette question-là, parce que il m'arrive de réfléchir. Plus je réfléchis à cette question-là, plus je me dis qu'en fait la question de l'après ne se pose plus et qu'il n'est plus temps de se poser la question de l'après que on a eu. Voilà, en tant que collectivement humanité, on a eu le temps de se poser la question de l'après, de et si on meurt, et si qu'est-ce qui se passe, si on disparaît, etc. Ce qui nous reste à nous poser, c'est la question de maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour qu'il y ait un après, déjà, éventuellement, peut-être. Et ce qui nous permet de ne plus nous projeter pour nous déculpabiliser du maintenant en imaginant comment cela pourrait être pire, finalement. Essayons de voir le pire tout de suite pour l'empêcher d'arriver, d'advenir plus tard, quoi, finalement.
Merci, tu peux passer. Voilà, même question hein, de l'échelle.
Já, þetta skala líka,
þú veist. Já. Ég held að sé líka að því að skáldsagnaformið svo rosalega persónulegt.
Je pense que cette question d'échelle, elle s'explique peut-être aussi parce que le roman, la forme littéraire du roman, c'est quand même quelque chose qui est très personnel.
Og það er kannski mjög erfitt að vera með ótrúlega vítt sjónarhorn í skáldsögu og ég held að það ekki rosa skemmtileg bók heldur.
Et pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus difficile d'avoir un point de vue extrêmement large dans un roman. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle.
En svo til dæmis í bókunum mínum, þessum hérna, þá langar mér líka að skrifa svona út frá sjónarhorni þess sem að kannski svona bara lendir í átökunum og veit ekki hvað í gangi.
Moi, ce qui m'intéresse le plus dans mes livres, enfin ce que j'ai essayé de faire dans mes livres, c'est de m'attacher à des personnages auxquels il arrive des choses qu'ils ne comprennent absolument pas, dont ils ne connaissent ni l'explication ni l'origine. Et ils sont confrontés à ces événements très traumatiques sans avoir la moindre explication.
Það svo rosa oft sem að sögur einhvern veginn sagðar út frá sjónarhorni hetjunar, en ég var að hugsa hvað með alla hina?
Parce que très souvent, les romans sont quand même racontés depuis le point de vue du héros. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais qu'en est-il des autres? C'est-à-dire les autres qui ne sont pas le héros.
Ben, moi, j'avais envie de traiter de l'intime, de qu'est-ce qu'on fait avec la solitude. Donc forcément, il n'y a personne.
Et Jean-Pierre, peut-être un regard plus large.
Je ne sais pas quoi dire. On a tous eu envie d'écrire sur la fin du monde, parce que ça va arriver, même si ça arrive, même si la planète ne mourra pas, même s'il y aura toujours de la vie sur la planète, l'humanité, effectivement, peut périr. Est-ce qu'elle peut périr en entier? Même moi, je ne le crois pas. Il y aura toujours des survivants. Seulement, comment ils vivront? Ça, c'est un autre problème. Et un des fantasmes de l'écrivain qui travaille dans l'imaginaire, c'est de se retrouver seul au monde. Le roman typique sur le sujet, c'est Robinson Crusoe, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de survivre, il plante des trucs. Et le double fantasme de l'écrivain, c'est de dire, si tout le monde meurt, moi je m'en fous pourvu que je survive. Seulement, si on réfléchit 5 minutes, on ne peut pas survivre tout seul. Il faudra peut-être un boulanger à côté qui vous fait le pain, il faudra peut-être un médecin à côté si on est malade. Donc la vie solitaire n'existe pas. C'est un fantasme d'écrivain qu'on se plaît à travailler, à inventer, à répéter, mais c'est uniquement un fantasme. Et je crois que le seul sujet, en fait, c'est d'arriver à survivre non pas seul, mais en collectivité. C'est ça, en fait. Hein. Parce que tout seul, effectivement, on ne peut pas.
Merci. Voici venir l'heure d'une pause lecture. Donc c'est un extrait du roman Sanglant hiver de Hildur. Non. Il était difficile d'avancer avec un seau rempli de neige dans chaque main. Par miracle, Bergljot parvint néanmoins à les transporter à l'intérieur. Elle traversa la buanderie pour atteindre la cuisine où elle les vida dans une grande bassine. Elle ne s'était jamais rendue compte à quel point l'eau courante était un luxe, sans parler de l'eau chaude, directement au robinet. Elle avait toujours fait partie de son quotidien sans qu'elle ait à se poser de questions. À vrai dire, c'était peut-être même un luxe de n'avoir qu'à sortir dans le jardin pour ramasser de la neige. Bergljot avait un jour vu un documentaire sur des femmes africaines qui devait quotidiennement marcher 2 heures pour aller chercher de l'eau. Et dès la fin du film, elle s'était mise à penser à autre chose. Qu'adviendrait-il si la neige fondait? En tout cas, il ne pourrait pas rejoindre la grande île en marchant. La dernière fois que Bergljot avait pris une douche, c'était à Anarstapi, ce qui ressemblait à être 1000 ans auparavant. J'ai un peu de mal avec les prénoms, je prie de m'excuser.
C'est pas grave, on lit comme on peut.
Ormsfridur avait promis que ce soir, elle pourrait faire chauffer de l'eau et se laver. Ou plutôt ce matin, car bientôt le soleil se lèverait et elle irait se coucher. Elle avait passé la journée, la nuit, se corrigea-t-elle, aller de maison en maison pour réunir de la nourriture. Ormsfridur lui avait fait faire équipe avec l'autre adolescente de son âge, une dénommée Magnéa. Et on va s'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus, les deux livres sont disponibles. J'ai envie, moi, de venir un peu sur le thème de l'effondrement dont a commencé à parler Jean-Pierre. Alors, un peu ironiquement, il m'arrive de dire bah, l'effondrement, c'est l'homme riche blanc qui découvre qu'on va tous mourir et qu'il ne pourra pas s'en échapper, lui, cette fois-ci. Il y a toute une réflexion là-dessus. Et effectivement, comme tu disais, Jean-Pierre, on est passé de quelque chose d'assez fataliste. Récoltons les preuves que ça va effectivement arriver, parce qu'on a envie de pas trop y croire tout de suite. On récolte vite les preuves. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Un moment de flottement et des réflexions de scientifiques la plupart, mais qui viennent d'un peu partout, sur comment on va faire pour s'en sortir. C'est des démarches qu'on retrouve dans vos livres, pas forcément avec la démarche scientifique, mais avec la démarche créative. Et j'ai envie de vous entendre parler de ça. Là, on était sur une scène très, très quotidienne, avec un regard changé par cette fin du monde, parce que, ben oui, l'eau, c'est illimité, ben non, pas forcément. Prendre une douche, boire de l'eau, comment on fait, comment on s'en sort, et comment vous avez travaillé, vous, sur ce genre de questions de privation et voilà, l'effondrement, etc. Qui a envie de commencer ? Allez, toi, ça fait
longtemps. Je vais tordre directement le bras à ta question, ça ne t'embête pas ? Non, mais ça rejoint, tu verras. Sur ce que disait Jean-Pierre sur le faire société, ça rejoint ta question dans le sens, aujourd'hui, les sociétés occidentales et capitalistes, on est bien d'accord, pourvoient à tous nos besoins du moment qu'on baisse la tête et qu'on accepte le sens de la marche. On sait tous qu'au bout, il y a le mur, et pourtant, on accepte tous cette règle du jeu. De courber les chines face au capitalisme qui nous conduit à notre propre perte. Et moi, ce que je trouvais intéressant, au-delà de la question de l'intime, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour élargir le débat, c'est qu'est-ce qui fait qu'on reste ensemble, une fois que la société n'est plus là, pour nous fournir tout le confort dont on a besoin, ou alors on nous fait croire qu'on a besoin, qu'est-ce qui fait qu'on peut encore faire société ? Sur quelle base on s'allie, ou on se combat ? Qu'est-ce qui nous rapproche, hein, c'est quoi cette humanité-là? Est-ce que c'est parce qu'on a de l'eau qui coule dans la douche qu'on va pouvoir s'entraider? Et quand il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Ça parcourt aussi, puisque ces deux personnages sont obligés de partir sur la route, ils croisent plein de gens. Je ne dis pas qu'il y a une réalité, chaque personnage qu'ils vont croiser, chaque personnage a sa propre vision du monde. Il y a des micro-communautés qui essaient de se réorganiser de façon autogérée. Il y a des gens qui vont aller profiter de la faiblesse des autres. Et je crois que même si c'est dans une prospective comme ça, si c'est dans un avenir, c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Pourquoi on reste ensemble ? Je vais m'arrêter là.
Sinon, on peut continuer. Tu souhaites dire quelque chose par rapport
à ça? Hérna, ég einmitt núna að skrifa bók sem að gerist á Íslandi árið 2096.
En ce moment, j'écris justement un livre qui se passe en Islande en 2096.
Og þar sem persóna hugsa tilbaka til tíma sem við erum á í dag.
Et ce livre-là met en scène un personnage qui repense à l'époque que nous vivons aujourd'hui. Et ce personnage dit ou pense qu'on est, nous, les êtres humains actuels de 2019, comme des lapins qui courent à toute vitesse vers le bord de la falaise, et puis qui, bien que au-dessus du vide, continuent à courir encore un petit moment, mais ils sont déjà au-dessus du vide.
Og þetta er svolítið skrítin tími til að lifa á í svona allsnægtum, en einhvern veginn vita í hvað stefnir. Og þetta er eitthvað svona útgáfa af helviti, mögulega.
C'est très étrange, enfin en tout cas moi je le ressens comme ça, c'est très étrange de vivre dans cette époque où on a, nous, une abondance absolue, mais tout en sachant que cette abondance, elle sera nécessairement très limitée dans le temps.
og hérna, já, þannig að þetta svona eins og bölvun og þetta svona rosalega skrýtnir tímar til að lifa.
J'ai l'impression qu'on vit, on pourrait dire, une époque de malédiction, une époque maudite.
Alors, de malédiction à malédiction, j'aimerais bien entendre l'extrait de Camille. Si vous êtes d'accord, ils sont d'accord.
Alors du coup, j'ai choisi de vous lire les premières lignes de Malboire, où le personnage principal, qui n'a pas de nom, se réveille dans la boue. Donc le premier chapitre s'appelle « La boue ». Je suis resté longtemps avec ceux de la boue. Combien de temps exactement ? Impossible à dire. Les mangeterres ne tiennent pas le compte des minutes et des jours, des heures et des mois. Ils errent sans but, marchent pour ne pas tomber, et s'ils finissent tout de même par chuter, c'est là qu'ils dormiront. Ce qu'il me reste de ces moments, je ne pourrais pas réellement le qualifier de souvenir. Il ne s'agit au mieux que d'impressions, de couleurs, de sensations et surtout d'odeurs, tout cela grossièrement ficelé ensemble en chaos. Je ne me souviens de rien car je n'étais personne. Je n'avais pas d'esprit pour conserver et organiser, pour chérir ou repousser. Ceux de la boue n'ont pas de mémoire, car ils ne connaissent pas le temps. Ils n'ont pas de temps, car ce ne sont pas des hommes, à moins que ce ne soit l'inverse. Pourtant, si je veux faire le récit de ces années-là, terreuses, glaiseuses même, durant lesquelles mon pied n'a trouvé comme support que le sable fuyant et le marécage traître, il me faut commencer par là. Et pour ce faire, il me faut essayer de faire surgir un ordre dans ces impressions mêlées, une direction dans ces errances. Comme personne, pour autant que je sache, ne les a côtoyés d'aussi près que moi, j'ai la faiblesse de croire que personne ne tentera de me contredire. Au jour où j'écris ces lignes, je suis persuadé qu'ils n'ont pas changé, pas cessé de tourner en rond, aussi immuable que le paysage qu'ils parcourent est changeant.
Merci. Alors, il nous reste assez peu de temps. J'ai envie qu'on ait un échange avec le public. Moi, j'ai encore plein de questions, mais on discutera après entre nous. Donc, j'aimerais qu'on entende le dernier extrait. Et pendant que nous écoutons, je vous demande de réfléchir à vos questions. On va avoir un moment d'échange donc sur l'Apocalypse, sur l'écriture, sur ce que vous voulez. Profitons de leur présence et de leurs textes. Ça me paraît important aussi qu'on entende les textes. Ces personnes écrivent. Elles parlent bien, mais elles écrivent. Et j'aime les textes.
La jeune fille s'appelle Avril et le petit garçon s'appelle Kid. Kid était fasciné par les animaux. Ils en trouvaient parfois sur la route de la capsule. L'enfant interrogeait alors Avril sur ses formes momifiées. Il lui demandait quels étaient leurs noms, et elle essayait de fouiller dans sa mémoire pour les retrouver, et quand elle ne trouvait pas, elle faisait appel au livre, où elle inventait quelque chose susceptible de plaire à l'enfant. Kid voulait tout savoir de ces statues fragiles, si elles avaient été vivantes un jour, et comment elles allaient de par le monde. Il était particulièrement fasciné par les oiseaux. Qu'une chose ait pu se déplacer dans le ciel sans le moindre effort apparent, lui semblait merveilleux. Et ça l'était. Ça l'était vraiment, pour autant qu'Avril s'en souvienne. Elle n'avait pas vu d'oiseau, même mort, depuis plus de 5 ans. Et Kid n'en avait jamais connu. La plupart des petits animaux, rats, chiens, chats et oiseaux, avaient depuis longtemps été exécutés, abattus pour leur chair, ou alors ils étaient morts de maladie, de vieillesse. Il ne restait aujourd'hui pas la moindre trace de ces petites bêtes. Il leur était arrivé de trouver des cerfs et des sangliers, de gros animaux qui avaient survécu on ne sait comment et qui s'étaient effondrés là, épuisés, là de lutter et peut-être de savoir qu'ils étaient les ultimes représentants de leur espèce, victimes de la solitude des bêtes. Kid était captivé quand Avril racontait comment ces êtres vivaient autrefois. Une fois qu'elle lui avait donné les détails dont elle se souvenait, le petit s'agenouillait près des dépouilles et les fixait intensément, comme s'il avait voulu graver dans sa mémoire la forme de ces animaux, puis, d'une pression du doigt, qui les faisait tomber en poussière. Ça n'avait rien de l'amusement. Quand il faisait ça, il gardait toujours une expression sévère sur le visage, comme si ça avait été rendre justice à ces choses que de les faire définitivement quitter cette terre, ou retourner à la terre, peut-être bien. Kid approcha la main du renard. Il appuya son index sur le museau de la bête, et aussitôt, elle s'effondra dans un nuage de poussière. Le gamin regarda son doigt blanchi. Il releva les yeux vers Avril et il demanda d'une petite voix. Avril, comment c'est ? Quoi donc, frérot ? Quand on meurt, comment c'est ? La jeune fille passa une main dans les cheveux de l'enfant. Allez, viens, Kid. Madame Mo nous attend. Tu peux me dire, sœurette ? Je suis plus tout petit. Un renard qui est mort, j'ai commencé. C'est tout blanc. Un arbre, c'est tout sec. Un oiseau, je sais pas. Mais j'imagine pas que c'est mort. Ou si c'est mort, c'est tout doux. Et nous, on est comme les renards, comme les arbres, presque comme les oiseaux. Je sais qu'un jour, on sera mort, toi et moi. Mais il y a quelque chose que je sais pas. Commencer de mourir. Avril hésita à répondre. Commencer, insista le gamin. On meurt un peu tous les jours, Kid, sans s'en rendre compte. C'est pour ça que la vie est précieuse, qu'il faut en profiter. Alors mourir et vivre, c'est la même chose? Les enfants ne meurent pas, frérot. Ils grandissent. Kid se releva et glissa sa petite main dans celle d'Avril. Moi, en attendant d'être mort, j'espère qu'on sera vivants, tous les deux, très longtemps.
On a envie de lui donner un autre prix. Hein. Alors moi, je n'ai pas les mots, donc j'espère que vous les avez. Je ne sais pas si on a un micro qui circule ou pas, ou s'il va falloir parler fort pour les questions dans le public. Il n'y a pas de micro, mais il y a des questions, j'en suis sûre, donc on vous attend. Oui.
Il faut vraiment parler fort.
Ou venez jusqu'ici peut-être. Là, ou approchez-vous.
J'entends pas.
Bravo. Ouais.
Oui, je disais donc, j'ai eu l'occasion de voir un film qui traite de l'apocalypse et qui se passe en Islande, qui s'appelait Bokeh, de l'apocalypse. Qui s'appelait Bokeh, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, Bokeh.
Personne et, prononce correctement.
Je voulais savoir si vous l'aviez vu.
La salle n'entend rien non plus.
Comme ça,
Bokeh.
Je pense que c'est un film islandais, oui, enfin, il me semble.
C'est,
c'est l'histoire de deux touristes américains qui viennent visiter l'Islande et qui se retrouvent seuls en Islande. Le monde est tel quel, ils sont juste tous les deux
pardon,
tout seuls.
Pardon, moins vite.
Pardon.
Deux touristes qui viennent visiter l'Islande, ils sont juste tous les deux tout seuls.
Oui, je voulais savoir non, si vous l'aviez vu et si ce que vous en aviez pensé, mais vous ne l'avez pas vu du tout. Moi, j'avais trouvé que c'était un très bon film et ça me faisait rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure sur l'importance de la communauté. Dire que finalement, ces deux personnes, elles sont seules dans un paysage magnifique. Elles ont tout ce dont elles ont besoin et le drame est vraiment celui où à un moment, un des deux personnages se retrouve seul complètement. Pardon pour cette question confuse.
Okay. Já, ég hef ekki séð þessa mynd, en þetta kannski svolítið raunverulegur ótti fyrir túrista á Íslandi, af því það alltaf einn eða tveir sem að deyja eitthvað star einir upp á hálendi.
J'ai pas vu le film en question, je sais pas si c'est un film islandais. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est une peur qui est réellement ancrée et justifiée en fait chez certains touristes en Islande, c'est que tous les ans, il y a quand même un ou deux touristes qui meurent parce qu'ils commettent des imprudences.
Ég þarf að finna þessa mynd grannlega.
Mais bon, j'aimerais bien trouver ce film. C'est Boke, B-O-K-I. C'est pas un, ça doit être plutôt suédois ou ça, mais...
Mais merci. Du coup, on a tous envie de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, bah viens, viens, Bruno. Alors, on a eu une question, une réponse, une autre question peut-être, ou une réaction, ou une émotion, parce que enfin, moi je suis émue, il y a eu des trucs émouvants qui se sont passés ici, trouve-je. Oui.
En fait, là, on parlait soit de la fin dans vos livres. En fait, c'est soit l'humain disparaît comme ça. L'humain disparaît. Oui, c'est mieux. j'aime pas ma voix, mais je voulais savoir. En fait, on parle de soit de l'humanité qui disparaît, soit de des animaux qui reviennent. Mais est-ce que ça vous a pas intéressé de dire qui pourrait prendre la suite ou pas? Est-ce que la survie de l'humanité, c'est pas peut-être de devenir autre chose, une symbiose ou je ne sais pas.
Je ne sais pas. C'est un vieux fantasme, un vieux mythe et un vieux thème de la science-fiction qui nous succédera. Alors il y a les singes, par exemple, dans La Planète des singes, bien sûr de Pierre Boulle, ou un roman américain qui s'appelle Le règne du gorille de Schuller Miller. Qui était très bien. Mais en fait, on est au bout de la chaîne alimentaire, on est au bout de l'évolution. Alors, qui peut nous succéder? On n'aura pas le temps. Il faudrait des millions d'années pour que l'homme se transforme en autre chose. Alors, bien sûr, on parle beaucoup du transhumanisme en ce moment, des changements mécaniques, biologiques. Mais ça, j'y crois pas beaucoup. Et surtout, surtout, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, on ne cesse de le dire, c'est qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc... personne ne succédera, les insectes resteront, hein, très certainement, ceux qui survivront aux pesticides, bien entendu, mais à part ça, non, je crois qu'il n'y aura personne. Quoi. C'est pour ça que je me suis fait un grand plaisir à écrire ce livre où seules les bêtes, effectivement, ne survivent.
J'ai eu tout à l'heure, dans une autre table ronde, un collègue auteur, il s'appelle Florian Kiefer, je crois. Florent Kiefer, qui lui voit les méduses. Et il a rassemblé des preuves scientifiques irréfutables. La suite, ce sont les méduses. Est-ce que Camille a une idée de qui nous survivra?
Je ne sais pas qui nous survivra. Et vous demandiez si on s'était posé la question. Non. Non, et pour une bonne raison, qui est que ce n'est pas la question. C'est-à-dire que, à mon sens, la question de l'après ne se pose plus. Je me répète, je suis désolé, mais on peut plus jouer à se faire peur. Et on ne peut plus jouer à se faire peur avec qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Alors les singes, Pierre Boulle, effectivement. C'est dommage que le film éclipse beaucoup le roman. Souvent d'ailleurs, en fait, ça sert à rien de se faire jouer à se faire peur avec le reste, puisqu'en fait, ça sert à rien de se dire bah ça pourrait être des poulpes géants qui jettent des lances qui nous succèdent, puisqu'en fait, déjà on va essayer d'arrêter de faire de la merde, déjà, et puis ce sera bien, et puis après s'il y a des méduses ou des tardigrades ou des poulpes ou des singes, bah ils verront quoi, mais déjà il faudrait que voilà. La planète supporte encore la vie. Bon, voilà.
Merci Camille. Alors, on arrive à la fin de cette rencontre. Je sens qu'il y a énormément de questions. Vous allez pouvoir les poser aux auteurs qui vont vous attendre sur leur stand respectif. Et j'ai envie de laisser le mot de la fin à Hildur, qui est quand même venu de loin pour nous rencontrer et que j'aime écouter. Donc, pour moi, pour vous, Hildur, le mot de la fin. Le mot de la fin du monde, bien sûr.
boom, segir hann hann sér
bara. Bara takk kærlega fyrir að koma og hlusta.
Merci beaucoup d'être venu nous écouter.
Merci, bonne fin de journée.